Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Nous sommes avec Emma Dubrinfo, fondatrice et gérante de l'entreprise M & Compagnie, qui est un collectif d'indépendants qui fait du conseil en marketing, communication, publicité, gestion de projet à Thiviers. Emma, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir chef d'entreprise ?
Oui, avec plaisir. J'ai fait du coup une école de commerce à Paris. Très vite, durant mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines spécialités qui me plaisaient plus que d'autres. Et surtout que j'avais envie d'un métier créatif. Et aussi, en lien avec la socio, je m'intéresse beaucoup aux gens. Je suis quelqu'un de très empathique. Et donc, assez naturellement, je me suis retrouvée à faire une spécialité marketing communication. Et pendant les écoles de commerce, tu fais plus ou moins de stages. Moi, j'ai fait le choix de pas du tout prendre de vacances pendant mes 3 ans d'école de commerce pour faire le maximum de stages possible. J'ai eu la chance de faire des très longs stages, une césure d'un an et demi, enfin de finir mon école avec un super bagage, beaucoup plus gros que beaucoup de personnes qui avaient fait des écoles de commerce. Et du coup, j'ai commencé en agence de market com pour le compte Audi France, pour qui j'avais travaillé pendant 1 an en césure. Donc en fait, je suis passée du côté client à l'agence. Mes clients étaient mes précédents responsables. J'ai continué comme ça. J'ai fait une première agence, une deuxième agence. Je travaillais pour des très gros comptes, Tom Group, American Express, Mastercard, tout ça. Et très vite, les autres ont ressenti, avant que moi je comprenne, que je finirais par monter ma structure. Mes responsables de stage m'ont très vite dit « Toi, tu vas monter ton truc un jour. » Et les opportunités, les choses ont fait que je me suis retrouvée en Dordogne.
Je t'interromps, tu bossais sur Paris.
Oui, j'ai fait mes études à Paris. Je ne suis pas parisienne au départ, mais j'ai fait mes études à Paris parce que les opportunités étaient à Paris. Et je suis arrivée en Dordogne par amour. Et du coup, j'ai travaillé pour Paris depuis la Dordogne en télétravail. Et voilà, une opportunité s'est présentée un jour et je me suis dit « Ok, go, je me lance à mon compte. » Et donc, c'était il y a bientôt 4 ans.
Et alors, comment ça se passe pour toi ? Parce que tu quittes Paris pour la Dordogne. Comment ça se passe quand on bosse dans la com ?
Il y a deux choses. Il y a comment ça se passe quand on est une femme ? Comment ça se passe quand on est une femme responsable de service market com pour une marque parisienne, très connectée, pour s'intégrer, déjà, dans un contexte où c'était le Covid ? Et comment ça se passe en tant que chef d'entreprise ? Ça, c'est venu après, du coup. C'est venu 1 an après mon installation. Pas facile de s'intégrer et d'être accueilli par les personnes d'un point de vue privé. Ça, il a fallu montrer patte blanche beaucoup. Et quand je me suis lancée à mon compte, beaucoup plus facile. En tout cas, l'accueil en tant qu'entrepreneur, et moi, c'est vraiment les réseaux pros qui m'ont fait rencontrer mes amis, qui m'ont fait aujourd'hui m'intégrer en local et vraiment m'installer en local. Et pour preuve, aujourd'hui, j'y reste, même si l'amour est parti, je reste en local. Donc c'est qu'on s'y intègre bien et ça se fait bien. Mais comme beaucoup de milieux ruraux, il faut montrer patte blanche même pour décrocher des contrats ici. Je me rends compte qu'il y a des entreprises qui font appel à des agences depuis super longtemps, dont ils ne sont pas contents. Ils savent que ça ne convient pas, mais ça fait tant d'années qu'on est avec eux, donc tu comprends. Et peut-être que ça, moi, c'est une approche plus parisienne ou plus citadine. Non, je ne comprends pas. Si on est en couple avec quelqu'un que ça ne va pas, on ne reste pas avec cette personne. Et c'est un peu pareil dans le travail. Ne te flagelle pas à rester avec un prestataire qui ne te convient pas.
J'imagine qu'à Paris, c'est peut-être un préjugé, mais j'imagine qu'à Paris, les entreprises ont une facilité à se tourner vers la communication pour leurs entreprises qui est de façon assez aisée. Qu'en est-il en Dordogne, toi qui peux comparer les deux ? Est-ce que les entreprises s'orientent vers la communication aussi facilement qu'à Paris ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Je pense qu'elles s'orientent des deux côtés plutôt facilement, pas forcément via les mêmes canaux. En termes de budget, toutes les entreprises sont frileuses à mettre de l'argent sur la com au départ. Mais non, je pense que pour le coup, les entrepreneurs ont bien conscience en 2025 qu'il est nécessaire d'être visible pour être connu et pour être vendu, peu importe ce qu'on vend, pour pouvoir vendre son produit ou son service. Donc non, tout le monde investit plutôt pareil. Après, c'est plutôt qui va gérer le projet de com au sein des entreprises. Peut-être qu'en milieu rural, ça va plus être souvent délégué s'il n'y a pas de personne en charge du poste, à la secrétaire de direction ou choses comme ça. Quant à Paris, c'est le responsable de la boîte qui s'en occupe beaucoup plus.
Et alors, M & Compagnie, qu'est-ce que c'est ?
Alors, M & Compagnie, c'est un collectif d'indépendants spécialisé dans le marketing et la communication En gros, c'est une agence de marketing communication. Pour le client, ça ne change strictement rien dans sa façon de voir le travail. Par contre, c'est complètement différent en interne puisque tout le monde est indépendant. J'ai eu la chance et les opportunités de travailler pour des très grosses agences parisiennes. Et j'avais envie de remettre des valeurs qui sont les miennes et qui sont, j'espère, les valeurs de beaucoup de personnes sur cette planète. Des valeurs humaines, d'altruisme et de transparence. Et du coup, je me suis dit que c'était possible de rémunérer tout le monde à sa juste valeur, aussi bien le client que le prestataire. Et du coup, M & Company est né. Donc c'est à peu près 20 et 25 personnes au quotidien qui travaillent sur des campagnes en France et à l'international.
Et donc, si je reviens sur tes propos, cette idée de travailler avec des indépendants, pour toi, était plus facilitante quant au fait que tout le monde puisse se prendre une part du gâteau ?
Il faut savoir que les agences parisiennes et pas que parisiennes travaillent à 90% avec des indépendants. D'accord. Le client ne le sait pas. L'agence fait croire que c'est des salariés. Oh, je suis en train de sortir des vérités sur le monde de la com. Le client ne le sait pas. Et moi, ça m'a toujours énormément dérangée de ne pas assumer. En fait, pour moi, il n'y a pas de honte à passer par des indépendants et pas, à ne pas avoir le profil exact en interne. Il y a des questions de salaire, de masse salariale, de ce qu'on veut. On peut défendre le sujet comme on veut. Et moi, du coup, je me suis dit, tous ces indépendants que je connais depuis des années, avec qui je travaille depuis des années, en leur en parlant, en disant, et si on était tous indépendants, en fait ? Et que on faisait un truc tous ensemble. Tout le monde a dit, mais ouais, trop bien. Et du coup, j'ai créé M & Company et les indépendants, il y a des indépendants que je connais depuis plus de 10 ans qui travaillent pour M & Company parce que on est d'accord que ensemble on est plus fort. Ça permet aussi de se positionner sur des projets où seul on ne pourrait pas aller parce qu'il y a besoin d'autres corps de métier pour répondre à certains projets. On ne peut pas répondre seul. Souvent dans la com, il y a plusieurs personnes derrière un projet. Et voilà, c'est une super aventure humaine en fait.
Et comment se passe la collaboration entre différents indépendants qui travaillent au sein d'un même collectif ?
Assez simplement. Alors déjà, c'est moi qui choisis les indépendants qui travaillent pour le collectif. Donc, par définition, ils partagent les mêmes valeurs et la même façon de travailler que moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, déjà, par exemple. Et ils travaillent main dans la main, il n'y a pas de concurrence. C'est ça qui est super sain aussi, parce que comme il n'y a pas de salariés, il n'y en a pas un qui va avoir une augmentation ou l'autre. C'est au projet. Je fais appel à eux par rapport à leurs compétences spécifiques, par rapport à leur disponibilité aussi et tout ça. Et du coup, ils peuvent se retrouver à avoir 3 projets et puis après, ils ont d'autres projets avec quelqu'un parce que je ne suis pas leur seul client. Au final, je suis un client pour ces prestataires. Et on ne se voit pas pendant 3 mois et on se retrouve et voilà. Et moi, la plus grande fierté, c'est quand je sais que 2 indépendants du collectif s'appellent pour s'aider sur un sujet qui n'est pas du collectif. Et là, je me dis, j'ai réussi en fait.
Est-ce que c'est plus compliqué pour toi de pouvoir mener un projet dans le sens, entre guillemets, que tu le souhaites, puisque tu travailles avec des indépendants, même si donc c'est toi qui as fondé ce collectif, tu as choisi les personnes avec qui tu travailles, mais j'imagine que lorsque tu prends un projet ou tu travailles pour quelqu'un, une entreprise, tu as une idée de là où tu veux l'amener. Est-ce que du fait que les personnes qui travaillent avec toi soient indépendantes peut être un frein au projet final que tu veux rendre ? Est-ce que c'est plus compliqué de les amener là où tu veux puisqu'ils sont indépendants ?
Je dirais non, au contraire. Non, au contraire, parce qu'au fond, quand on est indépendant, on sait qu'on est très facilement sur la sellette. Que se séparer de quelqu'un quand il est indépendant, c'est super, beaucoup plus facile qu'un salarié. Il n'y a pas cette sécurité. Donc, je pense que ça nous positionne aussi tous différemment, moi, auprès du client et les prestataires auprès de moi et, bien sûr, bien mon intermédiaire du client final. Et non, c'est pas difficile. C'est comme si c'était mes équipes. Après, je les ai au quotidien. On a une newsletter interne. Enfin, c'est vraiment comme une agence classique, sauf qu'ils n'ont pas de salaire. Ils m'envoient des factures.
En termes de réactivité pour tes clients, les projets que vous réalisez, est-ce que vous êtes du coup plus efficace entre guillemets qu'une agence standard avec une réactivité plus grande ? Quels sont les plus finalement de ce collectif ?
Le gros plus, c'est qu'on travaille 24 heures sur 24 puisqu'il y a des équipes jusqu'en Australie et aux États-Unis.
D'accord.
Donc en fait, le collectif ne dort jamais. Voilà. Du coup, quand vous dormez, d'autres bossent. Non, c'est déjà ça, c'est vrai. Le collectif ne dort finalement jamais. On est ultra réactif parce que déjà, c'est dans notre façon de faire. Après, par rapport aux valeurs du collectif, on est aussi très réactif, mais très réaliste. Et donc, il y a des délais, il y a des choses qui sont incompressibles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi. On n'est pas des esclaves de nos clients. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour répondre dans les contraintes et dans les délais. Mais on n'est pas magicien non plus. Et surtout, on ne se fait pas maltraiter par les clients.
Tu nous disais tout à l'heure que tu as choisi, toi, les personnes qui travaillent avec toi au sein du collectif que tu as créé. Tu viens de nous dire que certains se trouvaient en Australie, d'autres aux États-Unis. Comment tu les as rencontrés ? Comment tu les connais ? Est-ce que c'est lié à ton expérience passée sur Paris ?
C'est des personnes avec qui j'ai travaillé via d'autres agences et d'autres expériences passées, avec qui ça s'est super bien passé sur les différents projets sur lesquels on avait bossé ensemble. Et du coup, quand moi j'ai eu besoin sur le collectif, je les ai appelés, ou je les appelle, Et jusqu'à maintenant, tout le monde m'a dit « Mais oui, trop bien, on y va !» J'ai même plutôt une liste d'attente de prestats qui sont à frapper à la porte « Je voudrais bosser avec toi » et pour qui j'ai pas encore forcément une mission ou de projet précis pour eux, que l'inverse.
Et est-ce que c'est figé? Parce qu'aujourd'hui, tu as un collectif avec des indépendants récurrents avec lesquels tu bosses, mais est-ce que vous êtes engagé sur un... Comment ça se passe?
Alors, les indépendants signent un NDA, un contrat de une clause de confidentialité surtout, qui est que ils vont travailler, ils peuvent notamment sur du CRM et tout ça, ils peuvent avoir accès à des fichiers, à des données clients, donc ils ont des contraintes de confidentialité. Ils ont une contrainte de non-concurrence, c'est-à-dire que par exemple, demain, je les fais bosser sur une entreprise X, ils n'ont pas le droit d'aller la débaucher en disant « Coucou, c'est moi ». Et deux, si l'entreprise un jour frappe à leur porte, ils doivent, voilà, et qu'ils savent qu'elle travaille encore avec le collectif, ils doivent dire c'est moi, voilà, c'est via le collectif qu'on passe. Et c'est tout. Sinon, ils n'ont aucun engagement envers moi, à part de s'engager à rendre le projet dans les temps et dans la qualité demandée.
Donc le collectif, ça peut être deux personnes jusqu'à un nombre indéfini.
Ça n'a pas de limite.
Et il peut être amené à changer.
À évoluer à tout moment. Et d'accord. Il évolue à tout moment. Il s'adapte en fait à toute situation.
Et toi alors, quelle est ta philosophie dans ta manière de communiquer? Tu parlais de valeurs humaines tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui sont fondamentales par exemple pour toi? Est-ce que tu as déjà refusé de travailler pour une entreprise qui ne partageait pas les mêmes valeurs que toi ou qui te demandait un travail, une prestation qui ne rentrait pas dans le travail que tu fournis ou...
Oui, j'ai déjà refusé de travailler avec des personnes dès la création du devis et j'ai même mis fin à des collaborations avec des clients. Je pars du principe que si tu fais appel à une agence, puisque le collectif fonctionne comme une agence, si tu fais appel à une agence de marketing communication et donc à des spécialistes dont c'est le métier, quel que soit le métier dans la communication, parce qu'il y a beaucoup de métiers, mais des spécialistes, c'est que tu as besoin de te faire accompagner par des spécialistes et que tu es prêt à entendre les conseils de ces spécialistes. Il est arrivé avec une entreprise locale, dont je ne citerai pas le nom, de me demander
mais qui commence par non.
Ne diront rien, vous n'y arriverez pas. C'était au tout début, je me lançais en plus, donc j'avais un peu cette pression de faire rentrer du cash aussi, de me dire ça fait partie des premiers clients et j'ai dit non, comme quoi très vite je me suis dit non, je veux des clients de qualité et pas de la masse noyée dans la masse. Cette entreprise me demandait d'un accompagnement pour du community management en me disant nous on tous nos postes, on les sponsorise tant. Tous les postes, il y avait, je sais plus, un ou deux postes par semaine. On met tout sur tous les postes tant d'euros. Et j'en ai dit, mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas bien. Ça n'a strictement aucun intérêt. D'un point de vue d'algorithme, de tout, ça n'a aucun intérêt. Je t'ai pas demandé pourquoi, je te dis que nous, on le fait. Et du coup, j'avais dit, très bien, continuez. Mais je pense que ça n'a aucun intérêt que vous et moi, on travaille ensemble parce que c'est pas du tout ma façon de travailler. Donc eux, on n'a pas travaillé ensemble et j'ai mis fin à des relations clients parce qu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de s'adresser aussi, de respect, de communiquer, de gérer des projets et que moi je suis quelqu'un de très pédagogue et très patiente. Mais au bout d'un moment, on n'est pas là pour souffrir, les prestataires ne sont pas là pour souffrir et si ça se passe mal, on arrête en bon terme et c'est très bien comme ça.
Alors du coup, ce que tu me dis me pousse à m'interroger sur la chose suivante. Toi, comment est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu bosses et les entreprises avec lesquelles tu travailles? Est-ce que déjà tu choisis? J'imagine que là, vu ce que tu viens de nous dire, j'en conclus que oui, mais comment ça se passe?
Alors, y a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Mmh. Déjà, les premiers clients et les clients historiques avec qui on travaille le plus, c'est du réseau. C'est des gens, quand je me suis lancée... avec qui j'avais déjà travaillé et qui ont dit go, on y va ensemble. C'est aussi sur ces clients que je fais le plus de prospection, enfin sur ces prospects que je travaille le plus parce que des gens avec qui on se connaît dans la relation de travail, donc il n'y a pas de découverte et je sais vers qui je vais. Il y a des entreprises vers lesquelles je n'irai pas parce que pas du tout en phase avec mes valeurs dans le projet de l'entreprise. Je me verrais pas travailler pour du tabac par exemple ou ce genre de choses vapoteuses parce que je suis pas tout à fait en phase avec ce commerce là, donc je n'irai pas.
Tes convictions personnelles sont prédominantes, ouais. dans le choix des
sont pas prédominantes mais oui en fait compte. J'ai la chance, ouais, elles comptent, et j'ai la chance, ça fait petite princesse, mais j'ai la chance de d'être la chef et du coup de choisir aussi. Après, moi j'ai un très gros bagage automobile et cosmétique. Donc c'est le plus gros de la cosmétique aujourd'hui, c'est le plus gros du chiffre d'affaires de M et compagnie. Et forcément, quand on est très fort dans un secteur, c'est plus facile d'aller développer dans ce secteur que dans d'autres. Mais on travaille pour des ferronniers d'art, on travaille pour pour du tourisme, on travaille pour énormément de secteurs différents. Et c'est ça qui est super intéressant dans nos métiers, c'est qu'en fait on fait 15 métiers dans une même journée. Et moi, c'est ça que j'adore, quoi.
Bon, est-ce que tu dirais du coup que ton regard sur la communication est influencé par ton parcours? Tu nous disais que tu avais de l'expérience dans l'automobile et dans la cosméto. Est-ce que du coup, toi, ton approche dans la communication que tu fais est influencée par ce que tu es en tant que femme et par ton parcours aussi de femme au sein de tes expériences passées?
Alors, je pense oui. Je pense que toutes les personnes dans la communication, on est humain, donc forcément qui on est, ça joue sur notre façon de communiquer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des directeurs de création, des concepteurs rédacteurs qui sont ultra connus et qui sont très spécialisés dans certains types de communication, certains tons, certains types de montage et de films, parce que c'est leur patte. C'est des réalisateurs, un peu comme un réalisateur dans un film reconnaît leur signature. Moi, je suis quelqu'un de très transparente. Et du coup, je pense que dans l'intégralité des communications de M et compagnie, même si on est dans de la com, même si on manipule les mots, même, et ça, c'est quelque chose qui me passionne, on est quand même vrai et on tient à ce que nos communications soient vraies. Attention, la communication ne ment pas. Hein. On a tendance à croire que les communicants mentent. Absolument pas. Les lois sont très claires là-dessus. C'est très encadré. D'ailleurs, l'intégralité des coms qui sortent passe par des systèmes juridiques, hein, les grosses coms qu'on voit à la télé et tout ça. Mais... en effet, qui je suis joue sur ce qui sort du collectif.
Et est-ce que toi, en tant que femme, quels défis as-tu rencontré des défis dans ton parcours de chef d'entreprise?
Alors, vous ne me voyez pas, mais je ne suis pas un grand gabarit. Je suis blonde et je suis quelqu'un de très jovial, ce qui peut entraîner des incompréhensions de la part de certaines personnes du sexe opposé. Ou une difficulté à prendre ma personne de façon sérieuse pour certaines personnes parce que je parais plus jeune que ce que je suis, chanceux ou pas.
Généralement, c'est ce qu'on recherche tous, mais c'est
voilà.
Vrai que dans le travail,
mais
c'est
dans
un
le
peu...
travail, en tant que chef d'entreprise, je pense que si j'étais...
Ça délégitimise
un petit peu. Mais non, j'ai le tempérament. Je pense qu'il faut un tempérament. C'est surtout ça, en tant que femme, il faut être prête, avec le sourire, à répondre à des remarques, à se positionner et à foncer. Mais non, je travaille avec beaucoup d'hommes, du coup. Hein. Et le fait d'avoir travaillé dans l'automobile m'a aussi permis bien me former.
D'affronter ça.
Ouais, d'affronter le mal.
Est-ce que toi, tu as des modèles féminins qui t'ont inspiré dans ton parcours?
Ma grand-mère et ma mère, qui sont des femmes très fortes, très indépendantes. Qui ont toujours, qui ont des parcours. Ma mère a un parcours professionnel assez fou pour une maman de 5 enfants. Et après, en personne femme connue mais pas connue de tout le monde, il y a Hélène Keller. Hélène Keller qui est une femme qui est décédée, hein, sourde, muette et aveugle, et qui est une très grande scientifique américaine. Je t'invite à lire l'histoire d'Hélène Keller.
Oui, parce que je ne la connais pas du tout.
Et Hélène Keller est une femme extrêmement inspirante, parce qu'elle prouve que, en plus, à une époque où être femme, c'était... si c'est facile aujourd'hui, c'était encore moins facile à l'époque, et que on peut manquer de 300 C, devenir une éminente scientifique.
Quelle est pour toi aujourd'hui ta plus belle réussite?
Déjà que ça fonctionne et que des personnes en vivent depuis bientôt 4 ans. Ça, c'est une sacrée paire de manches, d'avoir osé et de continuer à oser. Parce que je crois que l'aventure d'entrepreneur, quel que soit le secteur, c'est pas de tout repos. C'est quand même beaucoup de stress. Moi, j'adore, hein, mais c'est quand même pas reposant. Parce que c'est un bébé qu'on emmène tout le temps avec nous, qui quitte rarement nos pensées. Ça, c'est l'aventure. Et puis, c'est les rencontres, c'est tout ce qui est fait, les rencontres avec les prestataires, les clients. Moi, ce qui me rend le plus fière, c'est quand c'est des clients qui nous recommandent merci à d'autres personnes. Je me dis, c'est qu'on a réussi et c'est qu'en effet, ça lui a plu. Donc, toutes les cases sont cochées, quoi.
Au niveau de la communication, tout à l'heure, au tout début, tu parlais de ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de préjugés autour de la com. Quand on a un climat économique un peu tendu comme celui qu'on rencontre actuellement, c'est généralement le premier robinet qu'on coupe. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Il me semble qu'au tout début, tu disais que ça n'a pas été le cas, étonnamment, sur ces dernières années un petit peu compliquées. Mais est-ce que tu aurais...
Pas trop pour le moment. Moi, je sens 2026 un peu moins facile. Mais c'est assez simple. Pour vendre, il faut être vu et il faut être connu. C'est une équation assez simple. Pendant une crise, les gens consomment certes moins, mais quand ils reconsommeront, parce qu'ils reconsommeront, ils iront vers les marques qui leur ont apporté du fun, qui ont été présentes pendant la crise. Donc je pense que disparaître pendant la crise... c'est pas forcément la meilleure idée, parce qu'on va se faire oublier. Et il y a des boîtes, et de plus en plus, parce qu'elles ont compris elles ont compris le système, qui continuent, certes, on diminue un peu les investissements, mais qui continuent à être présentes dans les périodes un peu difficiles. Et bien, c'est des entreprises qui, les chiffres le prouvent, ont tendance à repartir beaucoup plus vite dès que la consommation se relance. La com, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs qui commencent à faire les réseaux sociaux, qui commencent à vouloir faire leur site internet tout seul. Et c'est très bien. Enfin, pour le coup, moi, la première, hein, je suis aussi chef d'entreprise. Mais c'est des métiers. Ça prend beaucoup de temps. Quand on commence à mettre les mains dedans, on se rend compte qu'en fait, c'est un métier et que ça prend beaucoup de temps. C'est la troisième fois que je le dis, mais c'est vrai. Et la com, elle doit vivre, elle doit évoluer au quotidien. Et pour ça, il faut qu'il y ait des personnes qui le portent au quotidien et qui portent les projets.
Moi, comme j'imagine... Beaucoup de personnes ont tendance à penser que la com, ça représente un certain coût. Mmh. Pour autant, moi, personnellement, j'ai totalement conscience que c'est une chose qu'il ne faut pas négliger et en permanence, que ça aille ou que ça n'aille pas au niveau de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose de continu. Il faut se faire connaître. Et j'ai tendance à citer cet exemple de Coca-Cola, par exemple, qui, malgré sa reconnaissance internationale, continue de faire des pubs. Combien ça coûte aujourd'hui, sur voilà, une fourchette, hein, de faire appel à toi, et quelles sont les prestations que tu proposes ?
Alors, combien ça coûte, ne se prononce pas. Pas parce que je dis pas mes prix, mais parce qu'en fait, ça dépend complètement du projet. Oui. Et que même un site internet, il y a je ne sais pas combien de millions de sites internet sur notre ami Google aujourd'hui, et il n'y en a pas deux qui sont identiques et qui coûtent le même prix et qui engagent les mêmes personnes et tout ça. Donc, on s'appelle, on en parle, mais ça peut commencer relativement bas, ça peut commencer à 3000 euros, ça peut aller beaucoup plus haut.
Quand tu dis 3000 euros, c'est à l'année ?
Pour la création du site.
Ah, pour la création.
Pour la création du site. Après, s'il y a un suivi, ça, c'est des prestations mensuelles. Mais en gros, voilà, ça peut commencer entre 3 et 4 000 euros à peu près pour des sites très basiques, tout petits en gros. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, quand je parle de la communication, parce que les gens ne se rendent pas compte, la communication, c'est tout ce qui touche à l'image d'une marque. Mais pas l'image que visuelle, c'est toute la perception de la marque. Donc, ça va du son, de l'image, ça va vraiment à tout ce qui touche à l'ADN, en fait, d'une marque. Donc, nous, on fait tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde et plein de métiers dans le collectif. Donc, on fait la création d'identité visuelle, donc le logo, la charte graphique, les couleurs, la police utilisée. On part de l'essence de la marque. Et après, on fait, bah, comme tu le disais, des sites internet, des flyers. On fait du gaming. On a fait pour Prada des gaming. Donc, c'est des écrans interactifs en magasin, dans leurs chips internationaux. On fait vraiment tout ce qui touche à la marque.
Et on est d'accord que la communication, ça peut être autant pour une TPE qu'une entreprise à l'international.
Et ça, c'est nous, le collectif, on travaille en local et à l'international, et c'est quelque chose de très important pour nous. Il n'y a pas de client plus important qu'un autre, et donc on travaille avec des toutes petites structures en local, on travaille avec des très gros groupes internationaux, et on les traite tous de la même manière. C'est vraiment super important pour nous.
Je sais que tu es une personne très active, toujours un peu par mons et par vos sur 1000 projets en même temps, que ce soit du côté pro ou du côté privé. Ma question qui découle de cette remarque est la suivante. Comment est-ce que tu arrives à équilibrer aujourd'hui ta vie pro et ta vie perso avec ton rythme d'indépendante ?
Alors, mes proches diront, elle ne l'équilibre pas. Et ils n'ont pas tort.
Eh bien, ce n'est pas du tout équilibré.
Non, ce n'est pas équilibré. C'est sûr que je travaille beaucoup plus que de moments détente personnels. C'est un challenge quotidien que de trouver un équilibre entre le pro, le perso. Et en effet, j'ai aussi beaucoup de projets perso parce que je m'arrête peu. J'aime les challenges. Honnêtement, je ne donnerai pas de recette parce que ma recette n'est pas la bonne, je pense. Mais c'est difficile.
Quels sont tes projets à venir pour l'entreprise ? Quels sont les projets que tu aurais ?
Eh bien, comme on est des indépendants, mais qu'on est quand même tous contents de travailler ensemble et qu'on reste un bateau où on va tous dans le même sens et que c'est important pour moi d'emmener tout le monde, eh bien, il y a une newsletter interne qui a été créée par Gwen, qui est la conceptrice-rédactrice, Gwen qui est la community manager de M & Company. C'est elle que vous retrouvez sur LinkedIn, enfin, qui s'occupe de tout derrière LinkedIn. Donc voilà, il y a une newsletter qui est partie, une première, qui sera trimestrielle. Le but étant de partager un peu les gros, enfin les projets qu'on a fait, gros ou petits d'ailleurs, les projets un peu sympas qui ont été faits par le collectif, les opportunités, et les objectifs donc, que j'ai posés pour la première fois, après presque 4 ans d'activité, des objectifs pour l'année 2026 qui sont très ambitieux, mais que je vais atteindre, voilà, et qu'on va atteindre tous ensemble, j'ai pas le doute. Et du coup, voilà, le but, c'est aussi d'emmener tout le monde un petit peu plus, de façon un petit peu plus concrète, dans le business, en fait, et de faire des prestataires, des personnes engagées, même s'ils le sont déjà et qui sont tout le temps ultra présents avec moi si j'ai le moindre besoin. Là, c'est de les emmener un peu plus dans l'aspect business du projet.
Et où est-ce qu'on peut te retrouver si je suis une entreprise et que je veux faire appel à toi ? Où est-ce que je peux vous retrouver
Alors, du coup, LinkedIn, M et compagnie. Attention, compagnie, c'est l'abréviation CIE, donc M et CIE. sur notre site internet www.metcie.fr. Et après, moi, je suis à Thiviers, mais je remonte très souvent à Paris, à Lille, à Toulouse. Enfin, là, je bouge en fonction de où sont mes clients. J'ai la bougeotte, ça ne dérange pas. Et voilà, par téléphone, par email, vous retrouvez tout sur le site internet. Il y a même ma photo.
Et alors, pour conclure, est-ce que tu pourrais me dire quelle est ta citation fétiche, ton mantra ?
Alors, la citation du collectif, c'est « Sky is the limit ». Donc, ça veut dire qu'en gros, on n'a pas de limite, en fait. Nous, c'est vraiment
traduction
ça.
Littérale, ouais. Le ciel est...
Seul le ciel pour limite.
Seul le ciel pour limite.
Seul le ciel pour limite, soit peu limite. Et c'est vraiment ce qui définit le collectif. Et ce qui me définit, c'est que je suis quelqu'un d'ultra sociable et qui aime le contact humain et qui croit vraiment en le collectif, en fait, dans la vie en général. Hein. Et du coup, seul le ciel pour limite.
Et alors, petite question quand même, vraiment, avant de terminer, j'exagère un petit peu, mais ça
elle me paye, sachez qu'elle me paye.
Ça pas du tout. Ça m'est venu au cours de notre échange. En petit plus pour les
bonus.
En petit bonus pour ceux qui écoutent ce podcast, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui le mieux en termes de com?
Oh, intéressant, ça dépend. Je réponds toujours par ça dépend, non? Ça dépend du secteur, ça dépend du ciblage, ça dépend de qui on cible. Est-ce qu'on cible du local, est-ce qu'on cible du national? Ça dépend du secteur, ça dépend de ce qu'on vend, ça dépend de notre positionnement. C'est ultra spécifique à l'entreprise et à ses objectifs aussi. Donc, en local, s'il y a un réseau qui est le plus important, ça va être Facebook, par exemple, ici. C'est pas le cas partout. C'est vraiment... pour les jeunes, on va pas aller sur Facebook. Pour le coup, on va aller sur d'autres réseaux. Donc, c'est vraiment...
C'est aléatoire.
Ouais, c'est complètement aléatoire.
Eh ben, merci beaucoup, Emma, pour le temps que tu m'as accordé. J'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. Et puis, on vous dit à bientôt.
À bientôt. Merci, Carolina.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord.